Alors, Live Mentor est une plateforme de cours particulière en visioconférence. Je voudrais savoir comment vous est venue cette idée.
Alors, l'idée est venue de notre expérience. Moi, je suis entré en école de commerce il y a 5 ans et j'ai commencé à donner des cours particuliers à domicile. Des cours particuliers très classiques, on se connaît pas très, un peu partout dans Paris et en banlieue. On avait des cours de mathématiques, d'économie, principalement. Et, au bout de 2 ans, j'ai reçu un appel de maman, qui, elle, n'habitait pas à Paris, puisqu'elle habitait à Annecy. Et elle m'a proposé, d'organiser des cours particuliers, par l'intermédiaire du logiciel Skype. Donc, à distance. J'étais assez soucieux, mais au final, l'expérience a été, et c'est pour moi une révélation, ça s'est extrêmement bien déroulé. Je me suis rendu compte des 4 avantages des cours par visioconférence. Premièrement, l'avantage évident, c'est qu'il n'y a plus de déplacement requis. On économise énormément de temps. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir accéder aux meilleurs mentors depuis n'importe où. Le troisième avantage, c'est de pouvoir prendre un cours en urgence, à tout moment.
Alors, ça veut dire y compris à 23h un dimanche soir, par exemple ?
Exactement. Et le quatrième avantage, c'est le prix. Logiquement, comme il n'y a pas de déplacement requis, comme on peut prendre des cours de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, on a des prix qui sont bien plus faibles dans le secteur des cours en ligne par rapport au secteur des cours à domicile.
D'accord. Alors justement, effectivement, j'ai vu que les prix étaient très attractifs pour les étudiants ayant recours à votre plateforme. Mais du côté des mentors, est-ce que la rémunération reste suffisamment attractive pour avoir envie de travailler chez vous, enfin, avec vous plutôt?
Pour deux raisons. La première raison, c'est que la commission perçue par Live Mentor est de 15%, là où la commission moyenne d'une agence de soutien scolaire est de 50%. La deuxième raison, c'est que le fait de ne pas se déplacer permet aux mentors de donner beaucoup plus d'heures de cours, et donc d'avoir un revenu plus important que le revenu qu'ils obtiendraient avec des cours à domicile.
D'accord. Toujours à propos des mentors, pourquoi ce terme déjà ?
Alors c'est une bonne question. On a choisi le terme mentor pour deux raisons. La première, c'est qu'on voulait un terme à la fois en français et en anglais. Et la deuxième raison, c'est qu'on est convaincu que l'ambition de l'aide mentor n'est pas uniquement du soutien scolaire. Aujourd'hui, 80% de nos élèves sont effectivement des collégiens, des lycéens ou des élèves du supérieur. Mais on a même 20% de nos élèves qui sont des adultes. Des adultes qui prennent des cours de langue ou alors des cours dans des compétences professionnelles. Des cours d'Excel, par exemple. Et pour retranscrire, pour trouver un terme qui correspondait à la réalité de ces élèves-là, on s'est dégagé de la notion de professeur particulier pour choisir la notion de mentor qui nous semble rassembler à la fois qui nous semble plus correspondre tant pour un élève collégien que pour un élève adulte.
D'accord. Le mentor étymologiquement a une fonction de guide. C'est quelqu'un qui permet d'évoluer et pas seulement d'expliquer certaines choses. Donc, c'est cette dimension-là que vous souhaitez aussi mettre en avant.
Absolument.
Et comment vous recrutez vos mentors?
Alors, la légitimité pédagogique des mentors, c'est quelque chose de très important. Chaque mentor crée un profil détaillé sur les mentors. Chaque mentor reçoit une formation au cours par visioconférence par un membre de notre équipe. Et ensuite, nos mentors sont notés et évalués à la fin de chaque cours par leurs élèves. Et c'est ça la différence majeure entre une école publique classique et une école virtuelle. on donne à nos élèves la capacité d'évaluer les mentors.
Oui, donc...
Et ils sont constamment notés, et plusieurs critères sont autres que la notation, sont pris en compte dans leur classement. Mmh. On prend en compte la réactivité des mentors. On prend en compte leur disponibilité. On prend en compte leur, la fidélité de leurs élèves. Est-ce que ce mentor a eu 20 élèves différents parce que chaque élève a pris une heure de cours? Dans ce cas-là, on va plutôt privilégier un mentor qui n'a eu que 3 élèves, mais 3 élèves extrêmement fidèles, extrêmement réguliers.
Mmh.
Et ce sera justement la preuve que le mentor a réussi dans son rôle de guide.
Donc, ce sont vraiment les étudiants, les élèves qui évaluent les mentors davantage que vous.
Ah, bien sûr, absolument. On pousse énormément les élèves à évaluer et noter les mentors, puisque c'est le problème principal de ces cours à domicile. Vous êtes attribué avec un professeur particulier, validé, évalué par une agence scolaire, mais une fois que les cours ont commencé, vous n'avez aucune possibilité pour noter ce professeur. Vous êtes bloqué avec la personne pour en faire.
D'accord, oui.
Et le professeur, une fois qu'on lui a attribué l'élève, n'est pas incité à être professionnel. Il n'est pas incité à exceller dans son rôle.
Mmh.
Nous, on veut leur faire attention sur le mentor.
D'accord. Ça, c'est clair. Très bien.
On veut les pousser à exceller. Et c'est une démarche qui est assez... qui est assez inattendu en fait dans le domaine de l'enseignement. On a tendance à dire que le professeur, il ne faut pas le remettre en cause. Nous, au contraire, on pousse la remise en cause permanente des mentors.
Alors, justement, ça m'amène à la question suivante. Bon, il est clair qu'il s'agit de soutien scolaire ou universitaire, mais est-ce que ça pourrait devenir une véritable plateforme d'enseignement?
Absolument, c'est l'ambition de la Ligue Mentor. C'est là où je vous parlais d'école en ligne et des cours pour adultes.
Ouais.
Nous, notre vision, c'est de construire la plateforme de référence pour apprendre quelque chose.
Ouais. Et en quoi ça se différencie, enfin, je vois à peu près, mais des MOOC, c'est-à-dire des cours universitaires dispensés gratuitement sur Internet?
Alors, c'est très complémentaire. Les MOOC, ce sont des cours massifs ouverts à tous, qui constituent en fait des bibliothèques d'Alexandrie, des ensembles de ressources accessibles à n'importe qui. Les mentors, nous, on se concentre sur l'interaction entre un mentor et un élève. Ça fait pas de ton collectif. Et on pousse par contre nos mentors à utiliser les MOOC en complément de leur cours. Et en temps parallèle, une grande majorité des élèves adultes viennent des MOOC. Ce sont des élèves qui suivent des MOOC sur Udacity, Coursera, d'autres plateformes, et qui ont besoin d'un mentor pour les guider, pour les accompagner, pour les pousser à aller au bout du MOOC vraiment. Il y a un chiffre qui est à savoir, seulement 6% des élèves commencent un MOOC vont jusqu'au bout. Donc la rétention est très compliquée sur une plateforme de MOOC. Parce qu'un manque d'interaction qui peut être comblé par l'aide-mentor.
Oui, donc c'est vraiment le principe d'interaction qui prévaut.
Exactement.
Vous vous définissez comme le blablacar des cours particuliers. Alors c'est lié bien sûr à la levée de fonds que vous avez opérée cet été, qui était d'un montant à peu près équivalent à celui effectué par blablacar. Mais en dehors de cela, pourquoi cette comparaison?
Alors je ne sais pas si c'est nous-mêmes qui nous comparons à blablacar. C'est peut-être un journaliste qui a décidé de faire dans un article, mais je pense qu'il y a deux éléments sur lesquels nous, on adore blablacar. C'est un exemple pour énormément de personnes françaises. En ce qui concerne l'alimentaire, on est également une plateforme de mise en relation. On supprime les intermédiaires. On utilise la technologie pour connecter les gens. Blablacar utilise la technologie pour connecter des conducteurs et des passagers. On utilise notre technologie pour connecter des mentors et des élèves. Blablacar, là où on se rend compte plus d'un BlaBlaCar que d'un Uber, c'est que BlaBlaCar permet à n'importe quel conducteur de fixer librement le prix de son trajet et de construire sa réputation, d'accumuler des recommandations garantissant sa qualité. On est dans une démarche similaire. Là où une plateforme comme Uber va beaucoup plus utiliser ses chauffeurs comme des commodités, comme
des employés finalement.
Comme des gens, d'un point de vue juridique, comme des employés.
D'accord. Le marché des cours particuliers est estimé à 1 million d'élèves pour un volume d'affaires d'un milliard et demi d'euros. 1 million d'élèves, c'est beaucoup. L'enjeu de votre plateforme est donc énorme. Ne craignez-vous pas d'être submergé?
Alors, c'est sûr que à chaque fois qu'on attaque un marché important, il y a une problématique de fluidité. Il y a une place de marché. Le risque que court toute la place de marché, c'est d'avoir des déséquilibres trop importants entre la demande et l'offre. La clé, et on va la trouver, c'est de travailler énormément de technologie pour être capable d'associer et de faire se rencontrer l'offre et la demande de manière fluide sur le site.
Oui.
Et c'est le problème constant sur lequel travaille Airbnb, cette constance sur lequel travaille BlaBlaCar sur Airbnb, comment est-ce que je peux présenter à des voyageurs des appartements disponibles. La même chose chez l'agenda. Le cœur de notre société, le cœur de notre site, c'est cet algorithme de classement des menteurs. Qui doit détecter notamment quand un menteur est saturé, quand un menteur a trop d'élèves.
D'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe?
Bon, il faut alors être dans les classements.
Pardon,
dans les classements pour recevoir moins de demandes.
Ah oui.
Et qu'on puisse présenter aux nouvelles élèves des menteurs disponibles.
D'accord. Et donc, quelque chose de très complexe à gérer.
Oui. Mais comme pour toute place de marché.
C'est sûr. Pensez-vous que dans l'avenir, des plateformes telles que la vôtre, ou seulement la vôtre, puissent remplacer les cours en présentiel et dématérialiser complètement l'enseignement?
C'est une question qu'on nous pose souvent. Nous, on se pose pas en remplaçant l'école nationale, l'école publique. On adore l'école. Je pense que les professeurs font un travail formidable. Là-dessus, on ne critique pas du tout le travail qui est fait au sein des salles de classe. Maintenant, aujourd'hui, on perçoit sur l'alimentaire une vraie tendance qui est la volonté des élèves de prendre le pouvoir de leur éducation, de pouvoir apprendre certaines matières qui ne sont pas enseignées à l'école.
Comme par exemple?
Par exemple la programmation. Par exemple, certaines langues. Du chinois, de vouloir apprendre ces matières à leur rythme, en prenant des cours le week-end, en prenant des cours le soir, en prenant des cours le matin, et de vouloir les apprendre, de vouloir apprendre avec les mentors qu'ils ont choisis.
D'accord.
On a certains élèves qui sont déscolarisés et qui suivent leur scolarité uniquement en ligne.
Oui, c'était à eux que je pensais notamment. Oui.
On a certains, par exemple, à un nombre aujourd'hui extrêmement minoritaire. Et je pense que ça va le rester. Maintenant, je crois qu'il faut plutôt tourner la question d'un temporaire. Comment est-ce que j'école de regarder ce qui se fait en ligne pour évoluer?
Effectivement. C'est intéressant. Ouais. Ouais, elle se tourne déjà vers le numérique le plus possible, mais c'est vrai que ça peut être un partenariat finalement intéressant. Dernière chose, j'ai vu que sur les matières, enfin les disciplines proposées, notamment dans le secondaire, toutes n'étaient pas représentées. Il y a les principales entre guillemets du type français, maths, anglais, etc. Mais pourquoi ça correspond à la demande ou est-ce que ce sont des choix? Pourquoi toutes les matières ne
Alors,
sont pas.
ça m'intéresse de savoir comment tu fais.
Comment?
Ça m'intéresse de savoir quelles sont les matières que vous avez repérées. Manquant, normalement, il y aurait plus beaucoup. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a ouvert les matières progressivement, en essayant à chaque fois d'avoir derrière une offre de mentors la meilleure possible. Et aujourd'hui, on couvre la très très grande majorité des matières scolaires. Mais je prends toute trouvaille de matières manquantes.
Oui, bah, par exemple, il y avait pas, j'ai pas vu la SVT ou la technologie, des matières qui sont enseignées au collège.
Alors, SVT, vous l'avez, SVT niveau collège, vous n'avez pas de technologie, effectivement. Vous n'avez pas de technologie.
Bon.
Pas de technologie.
Donc,
SVT, concept compteur en collège.
entendu. Pour conclure, l'ambition de Live Mentor est, j'imagine, immense. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous allez prendre une place, sinon de leader, au moins très importante sur ce marché?
Premièrement, parce que c'est un sujet important. Un lycéen sur trois prend des cours particuliers, un collégien sur trois. Deuxièmement, parce que les cours en ligne, c'est l'avenir. Il y a plus de déplacements requis. Pour accéder aux meilleurs mentors, où qu'on soit à tout moment. Troisièmement, parce qu'on est légitime. Les trois fondateurs de Live Mentor ont donné des milliers de cours particuliers sur les dernières années. Donc, on connaît parfaitement cette activité. Et enfin, parce qu'on construit un produit le plus simple possible. Aujourd'hui, pour un élève qui a besoin d'aide, il suffit de se rendre sur livementor.com et discuter avec quelques mentors qui sont connectés pour réserver un cours.
Donc effectivement, ça fait un nombre de facteurs importants.
Voilà.